Puissance orgastique. Jusqu'en 1923, l'année où naquit la théorie de l'orgasme, la sexologie et la psychanalyse ne connurent qu'une puissance érective et une puissance éjaculative. Mais si l'on n'y inclut pas les aspects économiques, expérientiels et énergétiques, le concept de puissance sexuelle ne signifie rien. La puissance érective et la puissance éjaculative ne sont que les conditions préliminaires indispensables à la puissance orgastique. La puissance orgastique est la capacité de s'abandonner au flux de l'énergie biologique sans aucune inhibition, la capacité de décharger complètement toute l'excitation sexuelle contenue au moyen de contractions involontaires agréables au corps. Aucun individu névrosé ne possède de puissance orgastique. Le corollaire de ce fait est que la vaste majorité des hommes souffrent d'une névrose caractérielle. L'intensité du plaisir dans l'orgasme, au cours de l'acte sexuel sans angoisse et sans déplaisir et non accompagné de fantaisie, dépend de la quantité de tension sexuelle concentrée dans l'organe génital. Le plaisir est d'autant plus intense, plus grand, que plus abrupte est la chute dans l'excitation. La description suivante de l'acte sexuel orgastiquement satisfait s'applique seulement à certaines phases et à certains modes de comportement typiques et biologiquement déterminés. Elle ne tient pas compte des préludes qui ne présentent pas de régularité générale. De plus, il faut se souvenir que les processus bioélectriques de l'orgasme sont encore inexplorés jusqu'ici. C'est pourquoi cette description est nécessairement incomplète. Phase de contrôle volontaire de l'excitation. L'érection est agréable et non douloureuse comme dans le priapisme ou érection froide. Spasme de la région pelvienne et du conduit spermatique. L'organe génital n'est pas excessivement excité comme il l'est après de longues périodes de continence ou dans les cas d'éjaculation précoce. Chez la femme, il devient hyperémique et grâce à une ample sécrétion des glandes génitales, humide d'une manière spéciale. C'est-à-dire que dans le cas où le fonctionnement génital n'est pas troublé, la sécrétion a des propriétés physiques et chimiques spécifiques qui manquent lorsque la fonction génitale est troublée. Un critère important de la puissance orgastique chez le mâle est le besoin de pénétrer. Car il peut y avoir érection sans ce besoin, comme c'est le cas par exemple chez beaucoup de caractères narcissiques érectivement puissants et dans la satyriasis. L'homme est spontanément doux sans avoir à compenser par une sorte de douceur forcée des tendances opposées telles que les pulsions sadiques. Les déviations pathologiques sont l'agressivité, fondée sur des pulsions sadiques, comme il arrive chez beaucoup de névrosés obsessionnels possédant une puissance érective, ou l'inactivité du caractère passif féminin. Dans le coït onaniste, avec un objet non aimé, la douceur est absente. L'activité de la femme ne diffère en aucune façon de celle de l'homme. La passivité, généralement prévalente chez la femme, est pathologique et due, dans la plupart des cas, à des fantaisies masochistes d'être violée. L'excitation agréable, qui pendant les préludes s'est maintenue à peu près au même niveau, augmente soudain, à la fois chez l'homme et chez la femme, avec la pénétration du pénis. La sensation de l'homme d'être absorbé correspond à la sensation de la femme qu'elle absorbe le pénis. Chez l'homme, le besoin de pénétrer très profondément augmente, sans cependant jamais prendre la forme sadique de vouloir transpercer la femme, comme c'est le cas chez les caractères obsessionnels. Résultant de frottements mutuels, lents, spontanés et sans effort, l'excitation est concentrée sur la surface et le gland du pénis et sur les parties postérieures de la muqueuse vaginale. La sensation caractéristique qui précède l'éjaculation est encore complètement absente, contrairement à ce qui se passe dans l'éjaculation précoce. Le corps est encore moins excité que l'organe génital. La conscience est complètement concentrée sur la perception des sensations du plaisir. Le moi participe à cette activité dans la mesure où il tente d'épuiser toutes les possibilités de plaisir et d'atteindre au maximum de tension avant que ne se produise l'orgasme. Inutile de dire que cela ne se fait pas avec une intention consciente, mais tout à fait spontanément et de façon différente selon les individus, sur la base des expériences antérieures, par un changement dans la position, dans le frottement ou le rythme. Selon l'unanimité des témoignages des hommes et des femmes orgastiquement puissants, les sensations de plaisir sont d'autant plus intenses que les frottements sont plus doux, plus lent et s'harmonise davantage entre les partenaires. Cela suppose une faculté considérable de s'identifier soi-même avec le partenaire. Les contreparties pathologiques sont, par exemple, le besoin de produire des frottements violents, comme cela arrive chez les caractères sadiques obsessionnels avec anesthésie du pénis, et incapacité d'éjaculer, ou la hâte nerveuse de ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Des individus orgastiquement puissants ne parlent ni ne rient jamais pendant l'acte sexuel, à l'exception de quelques mots tendres. Parler ou rire indique un grave désordre dans la faculté de s'abandonner qui exige une absorption non divisée dans les sensations de plaisir. Les hommes, pour qui l'abandon signifie être féminin, sont toujours malades orgastiquement. Dans cette phase, l'interruption du frottement est elle-même agréable. Elle est due aux sensations particulières de plaisir qui apparaissent lorsqu'on se repose. L'interruption peut s'accomplir sans effort mental, elle prolonge l'acte sexuel. Lorsqu'on se repose, l'excitation décroît un peu, sans disparaître complètement comme dans les cas pathologiques. L'interruption de l'acte sexuel par le retrait du pénis n'est pas foncièrement désagréable, à condition qu'il se produise après une période de repos. Lorsque le frottement se poursuit, l'excitation continue à croître au-dessus du niveau atteint antérieurement à l'interruption. Elle commence à s'étendre de plus en plus au corps tout entier, alors que l'excitation de l'organe génital demeure plus ou moins au même niveau. Enfin, résultant d'une nouvelle augmentation, généralement soudaine, de l'excitation génitale, s'installe la seconde phase. Phase des contractions musculaires involontaires. Dans cette phase, un contrôle volontaire du cours de l'excitation n'est plus possible. En voici les caractéristiques. A. L'accroissement de l'excitation ne peut plus être contrôlé volontairement. Elle s'empare plutôt de toute la personnalité et produit la tachycardie et les expirations profondes.
Puissance orgasmique.
B. L'excitation corporelle se concentre de plus en plus sur l'organe génital. Une sorte de sensation fondante s'installe, que l'on peut décrire au mieux comme une radiation de l'excitation depuis l'organe génital vers les autres parties du corps. C. Cette excitation aboutit d'abord aux contractions involontaires de la musculature totale de l'organe génital et de la région pelvienne. Ces contractions arrivent par vagues. Les crêtes des vagues correspondent à la complète pénétration du pénis, les creux au retrait du pénis. Néanmoins, dès que le retrait dépasse une certaine limite, il se produit immédiatement des contractions spasmodiques qui accélèrent l'éjaculation. Chez la femme a lieu dans ce cas une contraction des muscles du vagin. D. À ce stade, l'interruption de l'acte sexuel cause aussi bien à l'homme qu'à la femme un déplaisir absolu. Au lieu de se produire rythmiquement, les contractions musculaires qui mènent à l'orgasme comme à l'éjaculation deviennent, dans le cas d'une interruption, spasmodiques. Cela a pour effet des sensations intensément déplaisantes et quelquefois des douleurs dans la région pelvienne et dans la partie inférieure du dos. De plus, l'éjaculation se produit plutôt que dans le cas d'un rythme ininterrompu. La prolongation volontaire de la première phase de l'acte sexuel à un degré modéré est inoffensive et sert plutôt à intensifier le plaisir. Mais l'interruption ou la modification volontaire au cours de l'excitation dans la seconde phase est nocive, parce qu'ici, le processus se produit sous forme de réflexe. Par une intensification plus grande et par une augmentation dans la fréquence des contractions musculaires involontaires, l'excitation s'accroît d'une façon rapide et abrupte jusqu'à l'acmé. Normalement, l'acmé coïncide avec la première contraction musculaire éjaculatoire chez l'homme. À présent a lieu un obscurcissement plus ou moins profond de la conscience. Les frottements deviennent spontanément plus intenses après avoir diminué momentanément au moment de l'acmé. Le besoin de pénétrer complètement devient plus vif avec chaque contraction musculaire éjaculatoire. Chez la femme, les contractions musculaires suivent le même cours que chez l'homme. En ce qui concerne la sensation expérimentalement, la différence réside seulement dans le fait que pendant l'acmé et immédiatement après, la femme saine désire recevoir complètement. L'excitation orgastique s'empare du corps tout entier et s'achève dans de vives contractions de la musculature générale. L'auto-observation d'individus sains des deux sexes, aussi bien que l'analyse de certains troubles de l'orgasme, montre que ce que nous appelons la libération de la tension et éprouvons comme une décharge motrice est d'une façon prédominante le résultat d'un reflux de l'excitation de l'organe génital vers le corps.
Puissance orgastique.
Ce reflux est éprouvé comme une diminution soudaine de la tension. L'acmé représente donc le point où l'excitation change de direction. Jusqu'à l'acmé, elle se dirige vers l'organe génital. À partir de l'acmé, elle se tourne dans la direction opposée, c'est-à-dire vers le corps tout entier. Le reflux complet de l'excitation vers le corps tout entier est ce qui constitue la satisfaction. La satisfaction signifie donc deux choses. Le déplacement de la direction du flux de l'excitation vers le corps et le délestage de l'appareil génital. Avant que le point zéro ne soit atteint, l'excitation va en diminuant suivant une courbe douce et se trouve immédiatement remplacée par une relaxation corporelle et psychique agréable. Généralement, survient une forte envie de sommeil. Les relations sensuelles s'apaisent, seule une attitude tendre et reconnaissante persiste vis-à-vis du partenaire. Par contraste, l'individu orgastiquement impuissant éprouve un épuisement de plomb, un dégoût, une répulsion ou une indifférence, voire une haine envers le partenaire. Dans le cas de satyriasis ou de nymphomanie, l'excitation sexuelle ne baisse pas. L'insomnie est une des indications les plus importantes du manque de satisfaction. D'autre part, il serait tout à fait erroné de supposer nécessairement l'existence d'une satisfaction lorsque le patient ou la patiente s'endort immédiatement après l'acte sexuel. En nous penchant plus attentivement sur les deux phases principales de l'acte sexuel, nous voyons que la première phase est caractérisée principalement par l'expérience sensorielle et la deuxième phase par l'expérience motrice du plaisir. Les contractions involontaires de l'organisme et la complète décharge de l'excitation sont les critères les plus importants de la puissance orgastique. La partie de la courbe hachurée représente la libération végétative involontaire de la tension. Il y a des libérations de tension partielles qui sont semblables à un orgasme. On avait accoutumé de les prendre pour libération réelle de la tension. L'expérience clinique montre que l'homme, par suite de refoulement sexuel général, a perdu la faculté de l'abandon involontaire végétatif ultime. Ce que j'entends par puissance orgastique est précisément cette partie ultime, non reconnue jusqu'ici, de la capacité d'excitation et de libération de la tension. La puissance orgastique est la fonction biologique primaire et fondamentale que l'homme possède en commun avec tous les organismes vivants. Tous les sentiments sur la nature dérivent de cette fonction ou du désir ardent de la retrouver. Normalement, c'est-à-dire dans l'absence d'inhibition, le cours du processus sexuel chez la femme ne diffère en aucune façon de celui qui a lieu chez l'homme. Chez les deux sexes, l'orgasme est plus intense si les sommets de l'excitation génitale coïncident. Cela arrive fréquemment chez les individus capables de concentrer sur un partenaire leurs sentiments tendres en même temps que leurs sentiments sensuels. C'est la règle lorsque les rapports ne sont pas troublés par des facteurs internes ou externes. Dans ces cas-là, les fantaisies, au moins inconscientes, sont complètement absentes. Le « moi » est absorbé sans partage dans la perception du plaisir. La faculté de se concentrer avec sa personnalité entière dans le vécu de l'orgasme, malgré tous les conflits possibles, est un autre critère de la puissance orgastique. L'amour, le travail et la connaissance sont les sources de notre vie. Il devrait aussi la gouverner. Wilhelm Reich.